Aí, aonde? Esse é o campo ali. Onde de Luc 5 a 11.
Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il dit cela, Simon, Pierre, tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, il laissa tout et le suivit.
Merci, Didier. Donc, c'est un passage que peut-être souvent on a déjà entendu plusieurs prédications dessus. Nous allons essayer de voir comment on peut utiliser ce passage et comment on peut mettre en pratique ce passage dans notre vie quotidienne. Quand Jésus est monté sur le bateau de Pierre, Pierre n'a pas réalisé qu'il était sur le point d'être testé. Il était sur le point d'être mesuré par Dieu. Vous et moi, qui lisons cette histoire, nous sommes aussi mesurés par Dieu dans différentes situations de notre vie. Dans la Bible, il y a d'autres personnes qui ont été testées par Dieu. Quand on prend la vie de Moïse, Moïse il a pris soin d'un peuple lorsque Dieu l'a testé pour délivrer Israël de l'esclavage. Et aussi, la même chose dans la vie de David. Dieu a envoyé un lion, un ours, pour menacer le troupeau de David. Parce qu'il a testé pour la tâche de tuer un géant. Donc le thème de ce matin est comment suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. Comment suivre Jésus au quotidien? Vous savez, ce thème, ce n'est pas une recette. On connaît très bien en cuisine. Pour suivre une recette, on rassemble différents ingrédients. On le met en œuvre comme il est indiqué dans la recette et on obtient un résultat. Même si on reprend le même recette, on obtient presque le même résultat. Ce matin, je vais mettre en évidence les éléments indispensables pour qu'un miracle prenne place. Non pas comme un automatisme, mais comme une condition le rendant possible. C'est-à-dire, vous savez, ça m'inquiète aujourd'hui dans les églises. Quelques-uns sont à la poursuite cette spirituelle, pour voir accomplir certaines choses dans leur vie. Ils sont totalement désemparés ou sont totalement frustrés lorsqu'une recette a été appliquée et qu'elle n'a pas fonctionné. Chers amis, j'aimerais bien vous rappeler ce matin que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de recette. avec les éléments que l'on assemble pour obtenir un résultat. La vie chrétienne est une relation profonde, est une relation personnelle avec Dieu. Lorsque le divin est présent, impossible devient possible. Peu importe que ce soit pendant des noces ou dans une barque au sein de la tempête, etc. Lorsque le divin, c'est-à-dire Dieu, Dieu est présent, le surnaturel prend place. En prenant en considération ce que dit ici Luc, nous voyons que nous devrions répondre au moins 4 questions. Et surtout, nos réponses nous révéleront comment nous sommes préparés à suivre Christ. Donc, ici, pour nous, la première question est: comment répondre face à l'échec? Comment répondre face à la frustration? Nous voyons ici au verset 2, ici, Pierre et ses amis, ils étaient en train de laver leurs filets. Vous savez, Pierre et ses amis ont réagi avec Jésus en Samarie, en Galilée, et aussi ont visité Jérusalem avec Jésus. Mais leur contact, leur relation avec Jésus était quelque peu décontractée. Ils apprenaient à le connaître. Nous avons l'impression qu'ils sont rentrés chez eux de temps en temps pour leur travail et ils sont revenus pour être avec Jésus. Mais le jour est arrivé où Jésus a vu qu'ils étaient prêts à tout abandonner pour le suivre. C'était le temps d'engagement. L'heure est arrivée pour ces 4 pécheurs, Pierre, André, Jacques et Jean, de tout abandonner et suivre Jésus-Christ. Ces 4 hommes ont péché toute la nuit. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Et ils ont péché toute la nuit, n'ont rien trouvé. Ils sont quand même en train de préparer, nettoyer leur filet afin d'y revenir pour pécher d'autres personnes. Vous savez, moi, je ne suis pas un pécheur par profession. Mais je sais combien c'est dur de travailler la nuit. Mais si j'avais dépensé toute la nuit à pécher et je n'ai rien trouvé, je ne serais pas en train de nettoyer ou préparer mes filets, je le vendrais une fois pour toutes. Mais ici, les vrais pécheurs professionnels, selon ce ne sont pas des gens qui démissionnent leur travail. C'est peut-être pour cette raison que Jésus il avait au moins 7 pécheurs comme disciples dans son équipe. Pierre et ses amis ont expérimenté une nuit décevante, une nuit remplie d'échecs. Mais cela ne va pas les empêcher pour autant de réessayer. Ils ont tenté de faire quoi? Ils ont tenté de nettoyer le filet. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de nettoyer les filets, autrement, ce filet de pêche a tendance à collectionner des mousses, des saletés, etc. Lorsqu'on lit dans la parole de Dieu, on peut déclarer que les enfants de Dieu ont expérimenté l'échec de la vie. Parfois, c'est de la faute, mais parfois non. Mais ici, dans le cas de Pierre et ses amis, c'était une partie de plan de Dieu. Pourquoi? Dieu, Jésus, il est capable de bien garder le poisson hors du filet, tout comme il peut le faire entrer aussi dans le filet. Il a ce pouvoir. Si Pierre avait
fait une bonne prise la nuit d'avant. Donc, il aurait été hésitant de, encore une fois, sortir. Essayer. Vous savez, sa déception a ouvert la voie pour sa réussite. Peut-être ça parle à quelqu'un. Sa déception a ouvert la voie pour sa réussite. Souvent, notre déception ouvre la voie pour notre réussite. C'est pas évident. Mais ici, Pierre ne pouvait pas contrôler les poissons dans la mer. Mais par contre, il peut contrôler son cœur. Il peut contrôler la confiance et la détermination dans son propre cœur. Dieu a une façon de déconcerter le monde et de confondre le diable en changeant les échecs visibles en succès pour sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire l'échec? Qu'est-ce que l'échec? C'est un événement malheureux que nous subissons qui nous empêche d'atteindre le but que nous nous étions fixés. C'est-à-dire, c'est manquer la cible visée. Chacun a connu l'échec sur une échelle plus ou moins grande. Dans un domaine ou dans un autre, dans la vie, ça doit être ce soir. Peut-être sentimental, professionnel, familial, social, moral, spirituel, peu importe ce qui compte, c'est la manière dont nous affrontons l'échec. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Ses frères l'ont vendu à l'esclavage. Mais Dieu a fait de lui le deuxième dirigeant d'Égypte. Même Judas. Satan a utilisé Judas à trahir Jésus-Christ. Mais la mort de Jésus-Christ sur la croix a vaincu Satan. Et ensuite, Jésus il a acheté la rédemption pour un monde perdu. Pour ce monde perdu. Donc, chers amis, avec Dieu, il n'y a pas de défaite permanente. Avec Dieu, il n'y a pas de défaite permanente. Il a envoyé son Fils dans ce monde. Il a transformé la mort en vie. Il a transformé le chagrin en joie. Ne permettons pas au découragement de nous abattre. Lorsque nous arrivons au bout de nos ressources, c'est là que Dieu intervient. Ce n'est pas le plan de Dieu de laisser quiconque dans le désespoir. Dieu a des grandes choses en réserve pour nous. Lorsque nous nous retrouvons dans le désespoir, c'est là que nous verrons la gloire de Dieu. Donc, gardons notre cœur dans l'humilité. Nous verrons la bénédiction. Et aussi, nous verrons la provision de Dieu se multiplier pour nous. Ici, Pierre l'a réussi. C'était pas quelqu'un qui abandonne. Première question, c'est comment je réponds face à l'échec. Notre deuxième question ici, comment je réponds à l'autorité? Versets 4 et 5. Comment je réponds à l'autorité? Jésus avait besoin d'un pupitre à portée de main d'où il pouvait s'adresser à cette foule sur le rivage. Donc, il a demandé à Pierre de leur laisser utiliser sa barque. Pierre est en train de faire quoi? Il est en train de se préparer pour attraper des poissons. Mais Dieu, Jésus, était en train de préparer Pierre à pêcher des hommes. Notre Seigneur prépare toujours le chemin et nous la rend facile pour qu'on obéisse à sa volonté. Comme Pierre était assis dans la barque, en train de préparer les filets, il est en train de travailler sur ses filets. Il était une part obligé d'écouter le message de Jésus. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, cela suscite une foi
Nous lisons dans Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pierre avait sa confiance en Jésus-Christ. Parce qu'il a accueilli dans sa barque. Parce que tout ce que le maître voulait faire, c'était tout simplement de parler à la foule. Mais ensuite, il a pris le contrôle de la barque. Il a dit à Pierre, avance en pleine eau. Jeter au filet pour pêcher. Jeter au filet dans la mer pour pêcher. Je me suis posé la question, quel droit a Jésus de commander, de contrôler les biens dans la mer d'un pêcheur? Premièrement, il s'approprie la barre et maintenant il veut le filet de pêche. Que voudra-t-il après? Eh bien, Jésus en train de, il était en train de préparer Pierre à prendre le pas de la foi qui le façonne. Et alors, Jésus pourra commencer à changer l'argile en rocher. C'est vrai, cet ami, il veut prendre le contrôle de notre vie. Peut-être, Pierre, il avait une question dans sa tête. Qu'est-ce qu'un charpentier en sait à propos de la pêche? Qu'est-ce qu'un charpentier en sait à propos de la pêche? Peut-être Dieu et ses amis pêcheurs savent très bien que d'après l'expérience en Galilée, il faut pêcher dans l'eau peu profonde pendant la nuit, non pas en plein eau, en plein jour. Pierre était un pêcheur connu, avec une bonne réputation. Le voyant jeter les filets en pleine eau, ses amis qui se tenaient sur le rivage ont dû se moquer de lui. Vous savez, l'autorité de Jésus défie notre expérience. L'autorité de Jésus défie notre, même notre réputation. Jésus, c'est lui qui a tout créé. C'est vrai, c'est le Fils de Dieu. Jésus l'a créé. Mer, sur laquelle la barque de Pierre a navigué, ainsi que les poissons qui ont été pris dans le filet. Il a aussi créé la matière avec laquelle le filet et la barque qui ont été fabriqués. Donc, ici, Jésus demande ce que nous possédons. Il demande seulement à ce qu'on lui retourne ce qu'il nous a donné en première place. Pour en juste ça, pour en faire encore mieux. Malgré ses doutes, Pierre a appelé Jésus maître. Il a appelé Jésus maître, il a accepté son droit de commander. Il a appelé pour une vie couronnée de succès. C'est d'obéir à ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Mais sur ta parole, je te le verset 5. Mais sur ta parole, je te le filet. Dieu, souvent, plupart du temps, Dieu honore la foi. Et la foi est révélée par l'obéissance. La foi, c'est d'obéir simplement à Dieu, malgré les sentiments qui sont dans nous, malgré les circonstances qui nous entoure et aussi les conséquences qui sont devant nous. Ici, Pierre, là, on ne connaît pas réussi ce test. Il s'est soumis à l'autorité de Dieu et lui a obéi. Notre troisième question, comment je réponds au succès? Verset 6 et 7. Pierre et André ont jeté le filet dans la mer et Jésus les a remplis des poissons au point que le filet se rompait. Ils ont appelé Jean et Jacques pour venir les aider. Et vite, ils sont remplis de barques au point qu'elles s'enfonçaient. Les autres pêcheurs qui étaient sur le rivage, ils étaient tous choqués, surpris de voir autant de poissons pêcher
pleine eau et aussi en plein jour. C'était déjà un miracle. Comment Pierre a-t-il répondu à un tel succès? Comment Pierre a-t-il répondu à un tel succès? Pour commencer, il a partagé avec les autres. Dieu nous bénit afin que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous rappelle? Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham dans Genèse 12, verset 2? Il a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Ce qu'on garde d'une façon égoïste, nous le gardons d'une façon. Ce que nous changeons avec générosité, nous le gardons avec assurance. Dieu sait comment distribuer les bénédictions. Il avait aussi une deuxième réponse de Pierre. Les bénédictions de Dieu ont appris à Pierre à être humble. Combien l'aurait-il facile pour Pierre de prier, de vraiment crier aux gens qui étaient sur le rivage en disant que regardez-moi, je suis un homme comblé, je suis un homme riche. Il aurait pu dire ça. Mais au lieu de faire ça, au lieu de cela, il a fait quoi? Il est tombé aux genoux de Jésus. Il a dit, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Vous savez, lorsque le succès est devant un échec, nous écrasons. Mais par contre, si le succès nous rend orgueilleux, l'échec nous découragera et même pourra peut-être nous détruire. C'est ça que nous voyons ici. C'est cela que nous voyons ici dans la parole de Dieu. Mais beaucoup de disciples de Dieu ont été ruinés par quoi? Par le succès que par l'échec. Après tout, lorsque nos cœurs sont en accord avec Dieu, alors sa bonté, alors sa gentillesse nous pousse à la. Là où il y a une attitude ou un caractère plus proche de Dieu, le succès apporte l'humilité. Au verset 8, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Ici, cette déclaration de Pierre était bien et aussi moins bien. Nous allons voir pourquoi. C'est vrai, il est un homme pécheur. Comme nous, mais Jésus n'avait pas le plan pour partir. Son plan était tout le contraire. Il était sur le point d'appeler Pierre et ses amis à le suivre et aussi de rester avec eux jusqu'à la fin. Peu importe ce que Pierre a dit, il est en train d'essayer de dire quelque chose, mais il n'arrivait pas à exprimer bien comme il faut ce que je pense. Pourquoi? Parce qu'il avait une bonne attitude, mais je pense qu'il a mal parlé. Peut-être, vous et moi, nous aurions aussi commis cette même erreur. Au lieu de dire, Seigneur Jésus, je suis un pécheur et reste avec moi. Il a dit quoi? Seigneur, je suis un pécheur, retire-toi de moi. Il n'avait pas compris, peut-être, avec quel but Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il est venu pour sauver les pécheurs. Mais dans ce passage, il est venu vers Pierre avec un but très précis. Il est venu pour préparer Pierre à être et à être pécheur pour les autres. C'était son but. Dans la barque, Pierre a senti qu'il n'était pas digne de rester avec Jésus. Même encore moins de recevoir sa bonté. Parce qu'ils sont spécialement bénis par Dieu, ils arrivent que certains s'enflamment. Certains s'enflent d'orgueil. Certains s'enflent d'orgueil. Alors que Pierre ici a mûri la grandeur. Dieu lui a donné d'énormes succès, mais il n'a jamais été orgueilleux de ce qui lui était arrivé. Je pense qu'il a dit, je ne suis pas digne de recevoir cette bénédiction de cette façon-là. Mais je ne suis pas digne d'être béni de cette façon-là. Mais je connais mon cœur rempli de ce péché. Mais si un tel succès arrive assez souvent, je pourrais devenir orgueilleux. Donc il a dit, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Lorsque Dieu nous bénit, chers amis, lorsque Dieu nous bénit richement, l'abri des dangers, abri du danger est au pied de Jésus-Christ. Pierre, il a encore une fois réussi le troisième test. Donc nous avons vu trois questions. Comment je réponds face à l'échec? Comment je réponds à l'autorité? Comment je réponds au succès? Nous allons venir à la dernière question. Comment je réponds à la vie de foi? Au verset 10. Nous lisons au verset 10, ne crains point. C'est une déclaration repérée plusieurs fois dans l'Évangile. Mais que s'est-il passé pour que Pierre ait eu peur? Pour une chose, ce seul miracle a effacé toute sa formation, toute l'expérience passée. Pierre devait tout recommencer comme il ne savait rien de la pêche. Cela pourrait troubler un homme. La plupart des adultes trouvent leur identité et leur valeur dans leur vocation, qu'ils soient enseignants, chauffeur ou chirurgien, etc. Vous savez, les chrétiens n'ont pas un travail. Nous avons une vocation. C'est-à-dire, on dit, c'est un appel. Nous sommes appelés par Dieu à accomplir certains buts dans ce monde. Pierre a été appelé à être un pêcheur, mais maintenant il est convaincu qu'il ne connaît pas grand-chose de la pêche. Donc, toutes ces années, en tant que pêcheur, n'était pas de gaspillage. Parce que Dieu ne gaspille rien, ne gaspille jamais rien. Dieu a appelé Pierre et ses amis à devenir pêcheurs d'hommes. Vous savez, les philosophes grecs souvent utilisent cette image pour décrire attraper les disciples en jetant le filet de la vérité. C'est-à-dire, les quatre pêcheurs pêchaient des poissons vivant dans leur filet. Mais après, les poissons mouraient. Maintenant, ils pêcheront des poissons morts, c'est-à-dire des pêcheurs morts, dans le filet de la bonne nouvelle, et ces poissons-là recevront la vie. Ça, c'est génial. Ça, c'est le grand miracle de Dieu. Plus le filet est large, il y a beaucoup plus de possibilités de pêcher des bons et des mauvais poissons, pour la gloire de Dieu. Le courage, la ténacité, les corporations et la sagesse qui ont fait d'eux des bons pêcheurs, mais aussi aideront pour devenir des bons disciples. Jésus, ici, les a appelés à une vie de foi. Jésus, peut-être ce matin, il nous appelle à une vie de foi. C'est quoi la foi? C'est la foi. C'est mettre notre confiance en Dieu. Ici, ces quatre hommes, Pierre et ses amis, ont signé une feuille vierge comme si Jésus avait établi leur contrat sans avoir demandé leur avis. C'est vrai. C'est quoi la question de foi? Il faut soit accepter ou soit rejeter la volonté de Dieu. Il ne faut jamais la négocier. La vie de foi signifie suivre Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils vont devant nous et préparent le chemin. Ils préparent aussi ses ouvriers en donnant chacun une tâche. La vie de foi, ce n'est pas un bond dans l'obscurité. Pourquoi? Parce que nous suivons celui qui est la lumière. Malgré ses doutes, Pierre a obéi. Donc, il a passé aussi ses quatrième tests. Il a tout abandonné. Il a suivi Jésus-Christ. Donc, mes amis, ce matin, tant que vous entendez, vous entendez la voix du Seigneur, tant que vous entendez la parole, sa parole, vous pouvez encore vous repentir. Repentez-vous. Parce que la grâce ne continuera pas pour longtemps. Nous sommes ici dans cette période de grâce. Mais jusqu'à quand? On ne sait pas. Mais la vie chrétienne et sérieuse. Et nous ne jouons pas avec le péché. Ceux qui continuent dans le péché sont en train de négliger. Ils sont en train de mépriser l'œuvre de la croix. L'apôtre Paul lui dit, ne donnez pas accès au mal. C'est-à-dire, ne donnez pas une place pour le péché. Il a dit plus tard, Christ est ma vie. La mort est un gain. C'est-à-dire que Christ est tout pour lui. Christ est tout ça. Donc nous avons vu quatre questions. Comment je réponds face à l'échec? Comment je réponds à l'autorité? Comment je réponds au succès? Comment je réponds à la vie de foi? Pierre se souvient de l'autorité de Dieu. Il lui a obéi. Il a tout abandonné. Il a suivi Jésus-Christ. Ce matin, chers amis, quelle est notre réponse? Quelle est notre réponse? Notre réponse, nous révélerons comment nous sommes prêts à suivre Jésus-Christ. Si on doit suivre Jésus-Christ, il faut apprendre à le connaître. Comment est notre relation avec Dieu? Ce n'est pas en train de parler de religion, c'est en train de parler de relation. Si nous avons une bonne relation avec Dieu, nous n'aurons aucun problème avec ses commandements. La foi, c'est obéir. C'est la question de confiance. Malgré ses doutes, malgré ses sentiments, malgré ses circonstances, malgré les conséquences, Pierre l'a fait quoi? Il a fait la part de la foi. Jésus appelle tous ses enfants à le suivre, à trouver une vie de détermination, vie de satisfaction, vie de confiance. Ce n'est pas une expérience à faire la vie, mais faire une vie. L'apôtre Paul dit ouvertement, il a confessé par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Pierre a cru en Dieu. Et Dieu a récompensé sa